Vous êtes sur RDL 103.5 et vous écoutez Coup de théâtre de la Comédie de Colmar. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à Peggy qui est en régie. Et c'est déjà la dernière émission de la saison, mon Dieu que le temps passe vite. Et aujourd'hui avec Léna Rossetti.
Bonjour.
Bonjour Léna, que vous connaissez, c'est une comédienne de la jeune troupe qui a beaucoup déjà été avec nous à la radio. Et c'est l'ancienne jeune troupe bien sûr. Et moi, je dis toujours de la jeune troupe parce que c'est là que je l'ai connue, mais elle fait beaucoup de choses maintenant comme comédienne. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble du sixième projet Ancrage. C'est la sixième édition déjà aussi. Et elle va nous parler de ce projet nouveau pour 2026 en nous réexpliquant peut-être un petit peu qu'est-ce que c'est que ce projet Ancrage.
Bonjour Christine. Mmh. Alors, le projet Ancrage, il est conçu pour former une troupe d'un an, intergénérationnelle. Donc, cette année, ça part de 14 ans et ça va jusqu'à, je pense, presque 70 ans. J'ai pas demandé l'âge de tout le monde, mais oui. Voilà. Donc, c'est vraiment des profils et des personnes d'horizons très variés et d'âges super différents. Donc, ça donne des rencontres tout improbables dans la vie comme sur le plateau, puisque je trouve que c'est rare d'avoir autant de personnes.
Diversité.
Oui, c'est ça. Et même d'avoir autant d'écarts d'âge entre certaines personnes. Souvent, quand même, on reste dans les ateliers, dans des écarts d'âge. On reste dans les mêmes tranches d'âge environ, disons. Voilà.
Voilà, et donc c'est des gens qui sont des amateurs, qui souvent n'ont pas fait de théâtre, ou pas forcément, qui démarrent avec ce projet Ancrage. D'autres peut-être ont déjà un petit peu d'expérience de théâtre amateur. Et donc vous les réunissez, je dis vous, parce que qui est-ce qui anime ce projet Ancrage ?
Nous sommes deux à l'animer, donc il y a Thierry Simon, qui est auteur à Strasbourg, et moi. Et on peut dire nous, parce qu'il y a aussi Alice Schaff qui travaille aux relations publiques de la Comédie de Colmar, qui, c'est tout son travail de justement pouvoir sélectionner cette troupe, la faire vivre, voilà.
Oui, parce qu'elle, c'est elle qui recrute les personnes et qui les connaît, qui suit l'ensemble du groupe.
Elle vient même à quelques séances pour venir suivre le déroulé du travail, donc... Voilà, elle est vraiment très présente.
Oui, et ils sont combien au plateau ? Ils seront combien au plateau ?
Ils seront 15 au plateau.
15, oui, c'est vraiment un grand groupe. C'est un groupe très étoffé. Alors, Thierry Simon, oui, qui est auteur et qui est directeur d'une compagnie qui s'appelle La Lunette Théâtre. Hein. C'est lui qui, d'ailleurs, est là depuis plusieurs saisons, même depuis le début, peut-être.
De l'ancrage ?
Oui.
Pas du tout, non. Trois saisons. Non, au début, c'était François Bégodeau.
Ah, c'est
etc.
vrai. C'est vrai.
Mais ça fait trois saisons qu'il fait Ancrage.
D'accord. Il aurait dû être avec nous, puis il a été obligé de partir pour des obligations professionnelles un peu imprévues. Mais alors, comment se passe le processus d'écriture ? On parlera peut-être du thème un petit peu plus tard, mais comment vous faites pour créer ? Parce que c'est pas du tout un texte qui est préalable. Comment ça se passe ?
Oui, ce que je trouve vraiment très, très précieux dans ce travail, c'est que Thierry écrit vraiment un texte pour les participants participantes à leur juste mesure et à leur vraiment en fonction de ce qu'ils proposent aussi au plateau. Cette année, on est parti aussi beaucoup sur de l'atelier d'écriture. Enfin, il y a eu plusieurs exercices d'écriture, demandés, etc., qui ont donné lieu à certaines inspirations pour Thierry et à des improvisations théâtrales que je dirige et que du coup après Thierry peut on va dire il pioche, il sélectionne, il remanie dans tout ce qu'il a vu. Et d'ailleurs j'en profite pour dire que au niveau de l'atelier d'écriture, il y aura une petite exposition dans le hall au niveau de tout ce qui a été fait puisque c'était très très beau de leur part aussi.
Oui, 15 personnes qui écrivent à partir de thématiques. Très souvent, pour avoir l'expérience de mener moi-même des ateliers d'écriture, souvent on est tellement surpris. C'est la même consigne pour tout le monde. Et le résultat est tellement divers et il y a tellement de belles choses qui sortent. On est souvent très impressionnés. Et les gens eux-mêmes se surprennent dans leur production. Donc c'est souvent extrêmement touchant aussi.
Oui.
Et donc, ils piochent là-dedans. Et toi, tu organises ensuite, ou parfois, c'est vraiment l'improvisation au plateau au départ.
Oui, mais c'est sûr que c'est de l'improvisation guidée, dans le sens où je donne des thèmes, voilà, je donne des situations. Et puis on construit comme ça, en fait. Et après, si par exemple, dans l'avancée d'écriture de Thierry, on se dit, à cet endroit-là, il manquerait une scène, on va dire, avec 4 personnes ou 3 personnes, moi, je vais dire, OK, 4 personnes, vous pouvez me faire une petite improvisation sur ce thème, tout ça. Enfin, j'essaye aussi de trouver les idées de trame pour
arriver ensuite à assembler, pour faciliter.
C'est ça.
Et vous vous réunissez avec Thierry au préalable pour préparer la séance, ou est-ce qu'il y a un mode comme ça, c'est ce qui se passe, chacun travaille de son côté et c'est ce qui se passe au plateau qui va faire le...
Non, on se dit souvent ce qu'on va faire.
Oui.
Voilà. Et puis moi, je propose aussi pas mal d'exercices théâtraux, d'improvisation tout court, enfin, sans que ça donne forcément lieu à de la matière, mais voilà, il y a quand même toute la première partie de l'année qui est aussi liée au fait de découvrir, d'apprivoiser le plateau, de trouver du plaisir, de s'amuser.
Bien sûr, il faut constituer le groupe aussi,
oui.
Donc il faut, et puis même pour vous, il faut observer les possibles aussi.
Et
quand
je trouve qu'il faut arriver à... à trouver le jeu théâtral et le jeu presque qui relève de l'enfance, et qu'il y en a, enfin, des fois on le laisse complètement derrière nous au cours de nos vies pour ces personnes et tout, donc voilà, comment on reconvoque ça
et comment on retrouve ce plaisir de jouer tout simplement, ouais. Enfantin, oui.
Moi, je trouve ça très beau de voir toutes ces personnes du coup se transformer au cours de l'année, évoluer et voir toutes les personnes s'ouvrir, tout ça. Enfin,
voilà. Oui, et puis la confiance qui se crée aussi, parce que le groupe après, au bout d'un moment, a l'habitude de jouer ensemble. Et donc, petit à petit, je pense que les personnalités se livrent et qu'il y a des amitiés qui se créent. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a parfois aussi du découragement ? Enfin, est-ce que ça existe aussi, des gens qui tout à coup se prennent peur, ou est-ce que quelquefois ça arrive ?
Oui, il y a toujours... mais c'était au tout début de l'année, il y a eu 2 personnes qui sont parties parce que, en fonction de, il y en avait un, c'était en fonction de ses engagements professionnels, c'était pas du tout compatible, donc c'était très triste. Et lui-même, il était triste de quitter la troupe, mais voilà.
Oui, parfois, il y a
des choses qui arrivent, voilà, et puis c'est OK, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de problème.
Personne n'est enfermé, personne n'est obligé de rester à tout prix, mais voilà.
C'était... Oui, en général, la plupart, enfin, dans l'expérience que j'ai vue, en général, la plupart des gens sont accros, quoi.
Bien sûr, ouais.
Et voudraient continuer encore l'année d'après, ou alors rejoindre un autre atelier, ou créer, si ce n'est pas possible, une troupe. Hein. Bon, c'est un peu ce qui est arrivé au Bredala à partir d'un atelier adulte, mais qui est une compagnie de théâtre amateur maintenant. Donc les gens, souvent, ça leur met un peu le pied à l'étrier pour avoir envie de continuer aussi.
Parce que, oui.
Parce que les conditions sont quasiment des conditions professionnelles pour la restitution d'ancrage, pour le spectacle d'ancrage.
Oui, puis on en parle beaucoup avec elles, celles et ceux qui ont envie de continuer. Moi, je leur donne des pistes, je cherche avec eux, voilà.
Voilà, où ils peuvent continuer à pratiquer le théâtre, voilà.
Mais oui, c'est très joyeux.
Ouais. Ah oui, ça, je n'en doute pas du tout. J'imagine que c'est vraiment un moment très, très plaisant. Et... Quand, dans le travail aussi en lui-même, là déjà ils proposent des textes, puisqu'il y a l'atelier d'écriture, donc on se nourrit de leurs propositions, mais est-ce que même par rapport à la théâtralité, au jeu, ils proposent aussi des choses, ils ont un regard sur ce que vous sélectionnez, ou est-ce que c'est vraiment quand même le regard extérieur qui détermine les choses ?
Oui, bien sûr qu'il y a toujours un regard, et puis s'il y a des propositions de leur part, on est toujours... très à l'écoute, et voilà, il y a même certains extraits, il y a un monologue dans le spectacle qui a été en partie écrit par la personne qui le joue, tout ça, c'est tout à fait possible, tout à fait, voilà, enfin, moi je reste très à l'écoute de toutes leurs propositions, je trouve ça super riche qu'ils puissent chacun apporter leur patte. Après, pour tout ce qui est extérieur, c'est sûr que c'est hyper important d'être à l'extérieur et d'avoir un regard extérieur pour veiller au rythme, pour veiller à...
Bien sûr, voilà. À la mise en scène.
De l'intérieur, c'est pas très possible.
Production,
quoi.
Théâtrale, voilà. Aussi. Et est-ce que Ancrage est ouvert seulement à des gens qui veulent jouer, ou est-ce qu'il y a par exemple des gens qui sont plus intéressés par le travail sur la lumière, ou... Est-ce qu'il y a aussi, dans ce projet, ça pourrait être le cas, des gens qui ont envie plus de se former à des questions techniques ?
Malheureusement, non, il n'y a que le jeu, et ça vient aussi du fait que la technique arrive tard dans la saison, donc c'est simplement la dernière semaine, donc ça serait un petit peu...
Oui, c'est vrai.
Je pense que les personnes s'ennuieraient un petit peu avant.
Avant, oui, bien sûr, parce que c'est vrai que parfois on pense à ceux, aux gens qui ont envie de jouer et tout ça, et puis on se dit que peut-être qu'il y a des gens qui auraient envie de toucher en fait à la pratique théâtrale, mais par ce biais-là. Mais c'est vrai, enfin, tu as raison, je n'avais pas pensé à ça.
Oui. Bah, vu les conditions, en tout cas, voilà, on se concentre sur le jeu, mais...
Ouais, ça pourrait être aussi, ou les costumes, ou à l'intérieur du groupe, ça peut venir aussi, quand on arrive vers la fin, à des propositions aussi, sous cet angle-là aussi, plus créatif, ou la bande-son, ou des choses comme ça, quoi. Alors justement, on va peut-être, avant de parler de la thématique, parce que ça permettra peut-être de faire la transition, tu m'as envoyé hier soir l'indication que pour illustrer notre émission sur Ancrage, on allait écouter une chanson qui s'appelle « Le pieu ». Alors, tu peux donner le nom du chanteur ?
De Marc
Robin,
je crois.
Voilà, c'est ça.
Et voilà.
Voilà, et on va l'écouter.
Je vous laisse l'écouter pour introduire le thème.
Je n'étais qu'un gosse, mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le vent. Petit, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés, tant qu'il sera planté comme ça, n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté. Petit, ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains, et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Il est toujours si grand, si lourd, la force vient à me manquer. Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté. Puis mon grand-père s'en est allé, un vent mauvais l'a emporté. Et je reste seul sous le porche, à regarder jouer d'autres gosses, dansant autour du vieux pieu noir, où tant de mains se sont usées. Ils chantent des chansons d'espoir, qui parlent de la liberté. Oh, si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. La la. Et si tu tires à mes côtés, sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté.
Vous êtes sur RDL 103.5 et je suis ce matin en compagnie de Léna Rossetti.
Bonjour.
Encore une fois, bonjour, c'est très bien pour parler d'Ancrage, la 6e édition. Je n'ai pas donné les dates des représentations, je vais le faire. Le jeudi 25 juin à 19h et le vendredi 26 juin à 20h, donc deux occasions de voir ce nouveau projet. Alors nous venons d'écouter la chanson Le Pieu, une chanson qui parle de liberté, de révolution, de désir de changer le monde, une très jolie chanson d'ailleurs. Alors, parlons un petit peu de la thématique d'Ancrage avec Léna.
Il faut savoir que le texte s'appelle Révolution, avec le R entre parenthèses, donc ça peut être aussi lu Évolution. Voilà,
ouais.
Le texte de Thierry Simon, pour le rappeler. Et oui, ça parle de comment on s'organiserait, comment une communauté pourrait éventuellement s'organiser pour vivre et pour inventer d'autres façons de vivre ensemble.
Ah oui, tout un programme.
Et tout un programme.
C'est vrai qu'à l'approche de 2027 et de l'élection présidentielle, c'est intéressant aussi d'entendre 15 personnes créer ensemble un projet, un texte peut-être qui va donner des pistes possibles de changement.
Des pistes possibles et aussi certaines critiques peut-être sur certaines choses à éviter aussi, certaines dérives possibles et toujours avec quand même beaucoup d'humour parce que c'est aussi une des marques de fabrique, je dirais, de Thierry en tout cas.
Oui, dans l'écriture pour un groupe comme ça d'amateurs aussi,
c'est ça.
Pour leur donner des possibilités de jeu avec des registres différents, j'imagine.
Par oui,
moment,
bien sûr.
C'est peut-être
parce qu'on n'a pas que envie de donner une leçon aux gens vis-à-vis des modes d'évolution possibles, c'est aussi voilà une manière de pouvoir rire aussi de rire.
Oui, et puis oui, de rire aussi parfois peut-être des tentatives et des projets.
C'est ça.
Voilà. Alors juste pas pour dévoiler bien sûr le contenu de l'ensemble du spectacle, mais peut-être pour donner une piste, révolution, évolution. Aujourd'hui, par exemple, j'imagine, moi, je n'ai pas accès pour le moment au texte, mais j'imagine qu'il peut y avoir des choses sur quand même quelque chose d'important qui est le problème de l'habitabilité de la Terre. Dans la mesure où on se rend bien compte que y a des problèmes vraiment importants de chute de la biodiversité, de problèmes de pesticides et que dans les projets.
Tu vises parfaitement dans le cœur du thème. En fait, le spectacle commence avec une espèce de problématique indéfinie d'inhabitabilité de la Terre. Donc il y a eu un dérèglement, un cataclysme. On ne s'arrête pas forcément là-dessus en en donnant tous les détails et tous les tenants et les aboutissants biologiques. Mais voilà, il y a eu un cataclysme, des oiseaux qui pleuvent, quelque chose d'assez monstrueux. Et puis, du coup, la Terre se désertifie.
Oui.
Et puis, cette communauté de 15 personnes, ces 15 personnes-là qui viennent de groupes différents, qui viennent d'horizons différents, doivent s'organiser.
Ne serait-ce que pour trouver la nourriture. Parce que,
c'est ça.
Oui, d'ailleurs, c'est un véritable problème de société. Je ne sais pas, j'avais lu quelque part que la ville de Paris, en fait, elle avait des réserves pour 3 jours.
Oui.
Ce qui paraît vraiment très peu.
C'est très peu.
Si jamais il n'y a plus d'approvisionnement, on ne peut plus apporter des choses,
ouais.
La ville tient 3 jours. Quoi. C'est,
ouais.
C'est quand même assez effrayant.
Ouais. Ouais.
Donc y a, effectivement, ça, je pense que c'est des sujets qui sont stimulants aussi, même si on le traite sur le mode de l'humour aussi.
Mais il y a aussi des choses qui sont très... Il y a des moments qui le sont drôles et puis d'autres moments qui sont aussi très touchants. Il y a vraiment différents registres, quoi.
Oui.
Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas seulement ce que je voulais dire
seulement
et je voulais
grave,
rassurer
voilà.
Des personnes qui voudraient venir, c'est que ce ne sera pas seulement grave et pas seulement...
pas seulement plombant.
Un manuel pour survivre.
Ouais. Mais c'est vrai que ça fait penser un petit peu. Alors, moi, j'ai souvenir d'un texte très beau de Mariette Navarro qui s'appelle « Zone à étendre »,
oui.
Où on a un petit peu... en fait, ce sont des gens qui décident de quitter la ville et puis petit à petit, ils vont dans la forêt. Et puis, il y en a qui sont partis par suivisme parce qu'il y avait les copains. Et puis, en fait, ce n'est pas si facile que ça de s'organiser. Et puis, est-ce que l'État va laisser ces gens se réorganiser ou pas. Enfin, c'est vrai que c'est une thématique qui est vraiment aussi dans l'air du temps un petit peu. Est-ce qu'il y a des choses qui ressemblent un petit peu à Zone à étendre ?
Oui, alors à la différence qu'il n'y a pas d'État là donné, du coup, il y a eu vraiment ce cataclysme et puis seulement quelques survivants qui doivent s'organiser.
Oui, il n'y a pas une pression entre des choix de sociétés différentes peut-être.
Et c'est aussi cette question de vis-à-vis de la culture, de l'art, qu'est-ce qu'on en garde en fait ? Il y a aussi cette question qui est beaucoup posée dans cette communauté-là. Est-ce que le peu de livres qu'on a, on doit le garder ? Est-ce qu'il vaut mieux oublier parce que ça correspond à une autre société ? Comment on transmet aux générations futures ? Et cette question, ça me fait penser à cette histoire que d'un historien qui rappelait que notre la branche de laquelle on vient d'Homo sapiens a réussi à survivre parce qu'il avait eu la capacité de se raconter des histoires à la différence d'autres.
Et oui, que nous sommes une espèce fictionnante aussi. C'est Nancy Houston aussi qui disait ça, que nous avons besoin de récits vraiment pour que nous puissions continuer à être humains. En fait, c'est vraiment ça. Mais moi, je pense aussi, par rapport à la question de l'habitabilité, mais bon, je ne suis pas sûre que vous ayez abordé cette question-là, mais aujourd'hui, il y a Baptiste Morisot, qui est un philosophe du vivant, qui s'est associé avec un juriste qui s'appelle Néret, j'ai oublié le prénom, et ils ont écrit un très beau livre sur cette question de donner un statut juridique aux rivières ou à des instances naturelles, en disant qu'il y avait bien sûr des grandes valeurs, mais que si on n'arrivait pas à vraiment lutter pour protéger l'environnement, la biodiversité, c'est parce qu'en termes de valeurs, on n'avait pas vraiment de mots. On a liberté, égalité, fraternité, mais eux, ils veulent mettre l'habitabilité de la terre comme une sorte de valeur, quoi, parce que c'est ça qui va permettre à toutes les autres valeurs d'exister. Si la Terre n'est plus habitable, plus de liberté, plus d'égalité, plus de fraternité. Et donc, ils veulent travailler juridiquement pour que cette notion apparaisse. Et c'est vraiment là, dans l'air du temps, et ça me paraît très, très intéressant comme piste, même si on se dit qu'effectivement, ça prend du temps, mais c'est important aussi, hein, pour protéger la Terre. Donc là, peut-être que c'est déjà trop tard, puisqu'il y a eu ce cataclysme.
Dans ce cas-là, oui, et puis c'est... Oui. Ça ouvre le débat de est-ce que le mot suffit ou est-ce que comment on gère ça.
Ouais. Et alors c'est vrai que par rapport à la question de la nourriture, il faut de l'agriculture, mais par rapport à la question de l'humain, il faut de la culture aussi au sens effectivement où tu viens de l'évoquer avec l'importance.
En tout cas, il y a cette question qui est évoquée, voilà. Ouais. Et puis tous les personnages et tous les protagonistes de cette communauté sont pas d'accord sur le sujet, c'est ça qui est intéressant aussi. Mais
oui, et puis je pense aussi que c'est particulièrement d'actualité puisque malheureusement et aujourd'hui on voit bien que la culture est attaquée. Terriblement, que même des CDN, je viens de lire que le CDN de Sartrouville était en danger, oui. Des scènes nationales.
Avec Vanves aussi.
Le théâtre de Vanves, des scènes nationales, le Chanel à Calais, et puis des musées d'art contemporain. Et on est quand même dans une période où, voilà, ces questions sont vraiment cruciales, en fait, hein, à débattre. Et c'est vrai que l'histoire aussi de sauver les livres ou pas, ça peut faire penser à Fahrenheit 451. Vous connaissez sans doute ce roman, chers auditeurs aussi. Un roman dans lequel, effectivement, les livres sont interdits et sont brûlés par des pompiers. Et l'un des pompiers tombe sur un lot de livres et il jette un œil dedans. Et il se dit quand même qu'il faut préserver ça. Et il y a une communauté qui apprend les livres par cœur. Moi, j'ai toujours trouvé ça d'une beauté incroyable.
Mais ça a été fait d'ailleurs historiquement dans même certains camps de concentration pour survivre.
Oui, bien sûr. Il a fallu que les gens se remémorent des textes. Oui, c'est vrai. C'est Primo Levi qui dit qu'il a survécu parce qu'il connaissait l'Odyssée. Par cœur.
Ouais. Oui.
Là, on évoque des sujets très, très graves et sans doute, peut-être que le spectacle ne va pas aussi loin dans cette direction-là. Mais quand même, en fait, quand il y a un cataclysme, ces questions peuvent se poser. Et même aujourd'hui, elles se posent encore. Alors, il y a peut-être aussi autre chose, parce que dans le groupe, il y a des garçons et il y a des filles. Alors, est-ce que, par exemple, quand on survit aussi, est-ce que vous avez évoqué, par exemple, l'assignation genrée ? Il y a des rôles pour les femmes et il y a des rôles pour les hommes. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça aussi dans... Est-ce qu'on retrouve quelque chose d'un peu primitif où il y a les chasseurs d'un côté et puis les nourricières de l'autre ?
Alors, il faut savoir que dans le groupe, il est composé à majorité de femmes
de
cette
femmes.
Année.
Ah.
Mais il y a quelques hommes. Et oui, il y a une scène sur une certaine tentation des hommes à vouloir faire de la chasse, mais qui est complètement tournée en dérision. Parce que, et voilà, c'est la seule, je pense, assignation genrée qui est vraiment évoquée, parce que je pense que c'était pas le cœur du spectacle, mais oui, à un moment, il y a une scène de chasse complètement tournée en dérision, et d'enseignement de chasse.
Ah, d'accord, bah oui, parce que quand il faut survivre, ben, bon, mais s'il n'y a plus beaucoup d'animaux non plus, finalement, il vaut mieux essayer d'inventer des cueilleurs ou des planteurs, je ne sais pas comment, des gens qui cultivent le peu de terre qui reste. Voilà, donc bon... Ça ne parle pas donc vraiment de cette question aussi de la place de la femme. Est-ce qu'il y a une dimension féministe dans le spectacle ou quelque chose comme ça sur le rôle des femmes ? Parce qu'on dit quand même que les femmes sont résilientes. Enfin, il y a une espèce de propos qui semble dire que quand la situation est vraiment difficile, les femmes ont un instinct de survie. Alors, on dit on l'associe aussi à la maternité ou... Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont évoquées ?
Nous, on ne l'a pas nommé comme ça. Puis je pense que cette différenciation de genre fait quand même de moins en moins sens au fur et à mesure du temps. Donc on l'a pas défini du tout comme ça. Simplement, oui. Il y a énormément de femmes qui sont très, très motrices dans cette aventure. Et c'est super chouette. Voilà.
Oui, il n'y a pas de discours tenu sur ces questions, quoi. Voilà, vraiment.
Il y a des discours de lutte, il y a des luttes exécutées par des femmes qui ont été, qui sont relevées, qui sont citées, parce qu'il y a un des groupes qui est composé uniquement de femmes et qui étaient des pink blocs et qui luttaient, qui manifestaient pour une forme de liberté féminine, féministe avant de se retrouver dans cette communauté. Oui. Voilà, donc du coup, ils évoquent un certain nombre de luttes, et même historiquement réelles, puisque Thierry Simon a fait des études d'histoire, donc il est très cultivé sur tout ça.
Bien sûr.
Voilà, Marc Holzheim notamment, avec l'occupation de l'usine, où les femmes ont vraiment ont tenu la première place et ont réussi à obtenir gain de cause. C'était en 1976.
Oui. Voilà. Ah oui, alors c'est intéressant parce qu'on va apprendre des choses. Quoi,
voilà,
aussi.
On peut apprendre des choses aussi, ouais, évidemment. Et alors moi, j'ai quelque chose à dire que je trouve très important, c'est que du coup, c'est une troupe qui se constitue au fur et à mesure de chaque année, qui se reconstitue. Et souvent, les intervenants sont amenés à changer. Ce sera sans doute plus Thierry ni moi, mais je trouve que c'est un projet qui vraiment mérite de vivre. Et il y a des personnes qui seraient intéressées, ils pourraient... déjà venir le 25 et 26 juin à 19h et 20h et aussi écrire un mail à Alice Schaff de la Comédie de Colmar pour pouvoir avoir des informations et pouvoir s'inscrire, obtenir le dossier, tout ça.
Oui, bah, tu peux donner le mail exactement parce que parfois les gens demandent si tu... Si
et
tu
je vais le donner, donc ouais. C'est A comme Alice.schaff, S-C-H-A-F-F, @comedie-colmar.com. Voilà, oui. a.schaff@comedie-colmar.com.
Oui, comme ça, effectivement, vous pouvez directement la contacter et vous inscrire pour la prochaine édition. Et c'est vrai que la Comédie de Colmar va connaître une nouvelle direction l'année prochaine. Et donc là, vraiment, tu souhaites que ce projet ou quelque chose qui lui ressemble perdure véritablement. Oui, et je pense effectivement que c'est super que des gens puissent aller jusque-là. Aller au plateau, rencontrer des professionnels et construire vraiment à partir du groupe à chaque fois quelque chose qui est totalement nouveau et qui est complètement un processus de création quasi pro en fait. Hein,
puis vraiment. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup de participants, participantes pour qui ça change la vie de participer à ce projet, qui le témoignent. Comme ça fait la deuxième fois que je mène cet atelier, je m'en rends compte aussi. Quoi.
Et tu as des retours très de gens qui viennent te dire combien... Ça... Alors, dans quelle mesure est-ce que tu peux préciser quand ils te disent que ça a changé quelque chose dans leur vie, c'est pas, Pas parce qu'ils ont plus confiance en eux, parce qu'ils ont expérimenté le travail collectif.
Il y en a à qui ça, il y a une participante notamment récemment qui m'a dit que ça lui avait donné accès à toute une part de créativité qu'elle avait complètement perdue dans sa vie, que ça lui avait redonné une joie qu'elle avait pas eu à laquelle elle n'avait pas eu accès depuis son enfance, quoi, et que voilà, elle s'était mise à écrire et qu'elle continue à écrire. Enfin, ça, je trouve ça magnifique, quoi.
Bien sûr, c'est vraiment, et je pense que c'est vraiment le plus important. Pourtant, dire, on parlait des difficultés peut-être de la culture, mais dire ça, que ça donne aux gens une puissance.
Il y a même certaines participantes d'ancrage qui après je connais une participante qui après a décidé de vouloir se professionnaliser, qui est rentrée au conservatoire,
qui a découvert vraiment une sorte de vocation, c'est et ça, qui continue voilà. à chercher dans ce domaine-là. Mais je pense que c'est merveilleux, et je pense que le public aussi, quand il voit cette énergie au plateau, cette joie qui, en général, se dégage des projets Ancrage et puis tout ce qui est possible, eh ben, ça donne aussi envie de rejoindre Ancrage et puis ça donne envie de soi-même créer. Enfin, il y a une espèce de communicabilité qui se transmet. Hein, oui, ben, c'est extraordinaire. Ben, vive le théâtre alors et venez voir Ancrage.
Vive le théâtre.